J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? Le désert est un des thèmes principaux utilisés dans la Bible pour évoquer ce pèlerinage difficile et silencieux vers Dieu. Tous les patriarches, Moïse, le peuple hébreu, Élie, David, Jean-Baptiste, l'apôtre Paul et même Jésus ont dû passer par le désert pour rencontrer Dieu. Bien sûr, personne dans la société de l'Antiquité n'avait envie de se rendre dans le désert. C'était un endroit aride et désolé, où les gens étaient certains de périr. S'ils devaient passer par le désert, ben ils y passaient aussi rapidement que possible, car ils savaient qu'il manquerait très vite d'eau et de nourriture. Mais le pire, c'était le silence. Le silence assourdissant. Les mots humains ne durent pas longtemps dans le désert. Et les mots divins sont aussi difficiles à trouver qu'une goutte d'eau dans l'étendue sans fin de chaleur et de sable. Quand finalement Dieu parlait, c'était comme un ruisseau d'eau fraîche pour un peuple dont l'âme était devenue aussi aride et muette que le désert desséché où il séjournait. Ce qu'il faut retenir peut-être surtout au sujet du désert, c'est que Dieu ne veut jamais qu'on y reste éternellement. Bien sûr, c'est difficile de sortir du désert. C'est très difficile. Mais la plus grande erreur que nous pourrions commettre, c'est nous habituer à vivre dans les lieux arides, nous complaire dans l'aridité. La seule raison de passer par le désert, c'est d'arriver finalement à la terre promise, où nous serons chez nous, auprès de Dieu. Et le seul moyen d'arriver à la terre promise, c'est de nous rendre compte que la soif que nous ressentons, c'est en réalité la soif pour Dieu. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas des mots, ni même des mots religieux. Ce n'est pas un système doctrinal que nous désirons. Mais une personne. Une personne sacrée. Dieu lui-même. Tous les mots que Dieu a prononcés dans l'Ancien et le Nouveau Testament avait pour but de nous attirer vers notre vraie maison et vers une communion intime avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Selon l'histoire du Nouveau Testament, nous étions tellement perdus dans le désert de notre désespoir que Dieu a dû faire plus que simplement prononcer des paroles pour nous en faire sortir. Il a dû devenir la parole. Ainsi, au cours d'une nuit sainte et silencieuse, le Logos s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Logos s'appelait Jésus, amant de notre âme, dispensateur de l'eau vivante. C'est à une Samaritaine que Jésus a donné sa meilleure explication de l'eau vivante. Les Samaritains étaient des cousins éloignés des Juifs. Ils croyaient en Dieu, en certain sens, mais leur théologie n'était pas doctrinalement correcte. Ils ne s'intéressaient pas à la vraie religion, et les Juifs les traitaient d'hérétiques. Légalement impur. Et en fait, leur religion était un mélange de judaïsme et de paganisme hellénique. Et ils ne reconnaissaient l'autorité divine que des 5 premiers livres de Moïse. Mais ce qui fâchait les Juifs le plus, c'est le fait que les Samaritains refusaient d'adorer Dieu au temple de Jérusalem. Étant donné cette animosité religieuse profondément enracinée, il est vraiment surprenant que Jésus annonce l'offre de l'eau vivifiante à une Samaritaine. Nous apprenons par la suite que cette femme avait déjà eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari. Ce n'était certainement pas la vie que cette femme avait prévue. Elle connaissait très bien le silence et l'aridité qui existe de ce côté des rêves écroulés. Alors à midi, au moment le plus chaud de la journée, cette femme vient au puits de Jacob pour chercher de l'eau. Mais ce n'était pas seulement sa gorge qui était desséchée. Étant donné cette femme au puits de Jacob n'est certainement pas le dernier des Samaritains, hein, Samaritains entre guillemets, qui cherchent quelque chose pour assouvir leur soif. Il existe en France des hommes et des femmes innombrables qui ont spirituellement soif, mais qui n'auront rien à voir avec nos églises et nos temples doctrinalement corrects. En fait, rien n'a plus de succès aujourd'hui que la spiritualité. J'ai vu l'autre jour que le plus grand revendeur de livres sur l'Internet, Amazon.com, dénombre dans son catalogue plus de 1900 livres uniquement sur les anges. Malgré l'engouement actuel de notre société pour la spiritualité, mais il faut bien admettre, les gens ne se pressent pas dans nos églises pour adorer Dieu, pour embrasser notre orthodoxie doctrinale et pour devenir des experts de la Bible. Je crois que la plupart des gens s'intéressent à la spiritualité dans le vague espoir que peut-être ça aidera. Lasse d'essayer de construire leur vie avec les ingrédients que leur propose le monde, ils pensent que l'ajout d'un peu de spiritualité à la soupe sera utile. Mais tout comme les Samaritains, ils font ce mélange sans faire preuve d'esprit critique. 50 grammes de nouvel âge, une pincée de gnosticisme, une bonne cuillerée de psychologie spiritualisée, et même un peu de Bible, pour faire bonne mesure. Il est facile pour nous qui avons passé notre vie dans l'Église, il est facile d'être sceptique sur l'authenticité de cette nouvelle mode de spiritualité samaritaine. Mais en fait, il serait plus utile pour nous de nous concentrer sur le problème de fond. Car en réalité, il s'agit d'une soif pour Dieu. La Samaritaine est la personnification de cette soif. Au départ, sa discussion avec Jésus ne se passe pas bien. Non seulement cette femme ne comprend pas à qui elle a affaire, mais elle ne comprend rien à ce que Jésus lui dit. Elle rate le sens de toutes les métaphores. Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Et la femme répond, fantastique, donne-moi de cette eau pour que je n'aie pas à venir à ce puits tous les jours. Nous qui connaissons bien cette histoire, nous avons envie de crier. Mais tu n'y es pas du tout, ma petite dame. Jésus ne parle pas de ta soif physique, elle parle de ta soif spirituelle. Justement, nous le savons, nous. Pourquoi donc éprouvons-nous encore une soif spirituelle si intense? Contrairement à la Samaritaine, nous savons qui est Jésus. Nous avons entendu, nous connaissons l'histoire de la croix et de la résurrection. Nous avons accueilli le don du pardon des péchés. Nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus membres de l'Église. Il se peut même que nous exercions un ministère ou un service à l'intérieur de notre communauté locale. Au moins, nous ne sommes pas des Samaritains. Nous aimons le temple, nous, et ses rites. Et pourtant, notre cœur n'est pas satisfait. Nous avons soif de plus. Plus dans nos relations. Plus dans nos familles. Plus dans notre boulot. Plus dans le but de notre vie. Mais surtout, nous avons soif de plus dans notre vie d'église et dans notre vie avec Dieu. Le sociologue George Barna, un des observateurs les plus, au moins les plus écoutés de la vie religieuse américaine, a publié récemment la conclusion d'un sondage qui indique que n'importe quel dimanche donné aux États-Unis, 75 millions d'Américains vont à l'église. Ça, c'est un paquet. 75 millions. Mais, dit-il, moins d'un tiers de ces gens croient avoir communiqué ou communié avec Dieu pendant le culte. Et plus d'un tiers de ces gens disent n'avoir jamais fait l'expérience de la présence de Dieu. C'est franchement stupéfiant. Comme la femme du puits, nous devons tous, tôt ou tard, peut-être dans un moment de méditation silencieuse, nous devons faire face au fait que nous cherchons plus que ce que nous avons trouvé jusqu'ici. Bon, il est certain que nous ne ressemblons pas à la Samaritaine. Au moins, nous essayons de garder nos mariages à un minimum. Nous avons des boulots honorables. Nous payons nos factures dans les délais. Nous avons l'air assez respectable et orthodoxe. Et pourtant, notre âme a tellement, tellement soif. Peut-être votre vie de prière s'est-elle desséchée. Peut-être, en dépit de tous vos efforts, n'arrivez-vous toujours pas à avoir un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous perdu toute la joie, tout le feu, toute la passion de votre foi. Et l'Église est devenue une routine. Si oui, et vous pouvez prendre votre place à côté de la femme samaritaine. J'ai grandi dans une église de campagne qu'on traiterait sûrement aujourd'hui de fondamentaliste. Depuis ma plus tendre enfance, on m'a inculqué l'importance d'avoir les bonnes réponses. Dans les classes bibliques pour enfants, on nous faisait apprendre par cœur, mais une quantité énorme de faits bibliques. Et on avait souvent des interrogations orales, des révisions orales. Et je suis sincèrement reconnaissant d'avoir acquis toutes ces connaissances qui m'ont été bien utiles dans ma vie. Mais en réalité, une grande partie de cela passe à côté de la plaque. Car quand il s'agit de venir en aide aux âmes desséchées, avoir les bonnes réponses ne suffit jamais. Un dimanche, je devais avoir tout juste commencé l'école primaire à cette époque. Un enfant est venu en visite dans notre classe biblique, justement au moment où on faisait une de ses révisions orales. Pour le mettre à l'aise, pour lui permettre de participer, la monitrice de la classe biblique lui pose une question vraiment hyper facile. Je ne me souviens plus de laquelle. Quel prophète avait avalé par un poisson? Il a répondu, Noé. Alors tout de suite, je me suis jeté dessus. Ah, n'importe quoi. C'est Jonas. Le petit garçon s'est fondu en larmes. Plus tard, quand ma mère me grondait assez vertement, J'ai essayé de me justifier. J'ai protesté. Mais c'était la bonne réponse. J'avais raison. Et ma mère a répondu, non, tu n'avais pas raison. Et j'espère qu'un jour, tu comprendras pourquoi. Eh bien, mes amis, j'ai mis très longtemps. Mais je crois que j'ai compris. La mission de l'Église ne consiste pas à distribuer un tas de textes bibliques et à déclamer un tas de réponses. La mission de l'Église consiste à attirer les gens à l'amour de Jésus-Christ. Finalement, les gens sont sauvés, non pas parce qu'ils savent, ils sont sauvés par qui ils connaissent. Il est dans la nature des religions de vouloir systématiser leurs croyances pour en faire un ensemble de doctrines bien précises et bien claires pour définir leur foi. Pour l'Église, cela veut dire enseigner aux autres tout ce que Jésus nous a prescrit. Seulement, puisque nous sommes très souvent en désaccord dans nos interprétations de ce que Jésus et la Bible nous prescrivent, eh bien, nous sommes souvent en désaccord sur ce que nous devons enseigner aux autres. Nous, la variété incroyable de dénominations, de confessions, de traditions théologiques et d'églises. Ces désaccords sont importants et dignes de discussion. Mais finalement, pour la plupart, ce sont des questions très secondaires. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui, dans notre mission, qui semblent devenir pour nous prioritaires. Pour dire les choses simplement, quand nous présentons Jésus aux autres, nous le présentons souvent plus comme un quoi que comme un qui, comme une doctrine, plus que comme une personne. Vous savez, connaître un tas de versets bibliques, ce n'est pas la même chose que connaître Jésus. Ce n'est pas la même chose. Aux biblistes juifs de son époque, aux pharisiens et scribes experts dans la Bible, connaissaient l'Ancien Testament par cœur, aux juifs qui croyaient, je cite, qui croyaient acquérir la vie éternelle par les Écritures, Jésus disait dans l'Évangile de Jean, vous n'avez jamais connu Dieu. Et encore plus dur, vous n'avez jamais entendu sa voix. Cette forme d'évangélisation, un peu comme si on tombait amoureux de quelqu'un, et puis on passait le restant de notre vie à étudier son CV. Cette méthode n'assouvira jamais, en fin de compte, les gens assoiffés dans nos églises, qui connaissent peut-être un tas de doctrines, un tas de versets bibliques, mais qui désire ardemment retomber amoureux de Jésus-Christ. Quand les premiers disciples ont rencontré Jésus, ils ne comprenaient pas grand-chose, pas du tout. Ils ne comprenaient pas grand-chose sur le rôle que cet homme devait accomplir, jouer dans l'accomplissement de leur salut. Et pourtant, il y avait quelque chose en lui de si irrésistible qu'ils ont tout laissé tomber pour le suivre. Pendant les 3 années suivantes, ils ont saisi peut-être quelques bribes, quelques vagues notions de l'œuvre puissante par laquelle Jésus allait réconcilier ciel et terre. Mais une chose est certaine, ils n'ont jamais été simplement en train de suivre un système de doctrine. Chaque fois qu'ils croyaient enfin avoir compris Jésus, il les détrompait. Elle les rendait encore plus perplexes. On a nettement l'impression, en lisant l'Évangile, que chaque fois que Jésus leur donne une nouvelle révélation sur le dessein de Dieu, eh bien, ils se regardent les uns les autres. Vous avez compris quelque chose, vous? Moi, j'ai rien compris. Il m'arrive parfois de ne plus savoir de quoi il peut bien causer. Mais ils ont quand même continué fidèlement à suivre cette personne qui ne comprenait pas toujours. Car ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'ils comprenaient. Ce qui compte le plus, c'est la personne qui suivait. Quand nous aimons quelqu'un, quand les disciples aimaient Jésus, quand nous aimons quelqu'un, il nous arrive souvent d'être étonnés et même perplexes. Ainsi, l'Évangile nous dit que les disciples s'étonnaient de voir Jésus parler avec cette Samaritaine. Eux et beaucoup d'autres étaient étonnés par les enseignements de Jésus et son pouvoir divin. Tout le monde était étonné et profondément déconcerté par sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts et son ascension au ciel. Cet élément d'étonnement est justement ce qui manque à tant d'entre nous dans nos églises aujourd'hui. Nous avons complété toutes les feuilles de tous les manuels de classe biblique. Nous avons rempli tous les blancs. Nous avons coché toutes les réponses à toutes les questions à choix multiples. Nous avons appris les réponses chrétiennes à toutes les questions concevables. Et c'est bien cela. Mais le danger, c'est qu'on finit par codifier Jésus. On finit par conditionner et impacter Jésus comme un article à vendre. Alors que lui est une personne. On ne peut pas l'enfermer dans un paquet. Si nous ne sommes pas étonnés par Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible que nous suivons. Quand nous acceptons de suivre Jésus, il nous conduira toujours en dehors des confins de nos petites boîtes religieuses. Jésus a été exécuté parce qu'il défiait les bonnes réponses des chefs religieux du judaïsme officiel. Jésus appelait Dieu son Père, chose qu'aucun prétendant messianique n'avait osé faire jusque-là. Jésus appelait les gens à la sainteté, puis il démasquait ceux qui réduisaient la sainteté au rituellement correct. Jésus fréquentait les pécheurs et les excommuniait, les exclus religieux, qui pour rien au monde ne voudraient être vus, ne voudraient qu'on les voit même morts dans une synagogue. Et il leur disait, allez, ne péchez plus. Et puisque Jésus ne donnait jamais aux chefs religieux les réponses attendues à des questions usées jusqu'à la corde, ils se sont vus dans l'obligation de le faire taire. Donc s'il y a une chose qui est parfaitement claire dans les évangiles, la voici. Jésus est exactement la personne dont nous avons besoin dans notre vie. Mais il n'est jamais la personne que nous attendions. Cependant, comme ne manquerait pas de me rappeler ma vieille monitrice biblique, de classe biblique, le Nouveau Testament déclare également que la connaissance de Jésus-Christ implique des obligations claires et précises. Et c'est vrai. Selon les écrits apostoliques, connaître Jésus doit déterminer comment nous vivons notre vie, comment nous dépensons notre argent, avec qui nous couchons, et comment nous passons le restant, le peu de temps en fait, que nous avons à vivre sur cette terre. Mais l'enseignement des apôtres ne deviendra jamais pour nous une source de spiritualité en dehors de notre rencontre quotidienne est surprenante avec Jésus lui-même. À la fin de l'évangile selon Matthieu, Jésus promet à ses apôtres d'être avec eux jusqu'à la fin de l'âge. Mais cela ne veut pas dire que Jésus s'enferme dans notre sac à dos, attendant que nous le portions au monde entier. Jésus est déjà là, dans le monde entier. Jésus est déjà à l'œuvre, même dans les endroits où les gens croient et font ce qui, d'un point de vue théologique, est carrément erroné. Quand nous suivons Jésus dans ces endroits-là, armés de nos meilleures réponses, nous devons faire face à une crise théologique. Que fait Jésus là-bas, du mauvais côté, alors que nous le tuons pour défendre les bonnes positions? L'apôtre Pierre, par exemple, devait abandonner les croyances qui lui étaient très chères au sujet de qui pouvait être admis dans l'Église et qui pouvait bénéficier du salut. Un jour, Pierre se trouve chez un ami, dans une maison au bord de la Méditerranée. Et il monte sur le toit pour prier, tout seul, avec Dieu. Il finit par avoir faim, mais malheureusement, le repas du midi n'est pas encore prêt. Et c'est à ce moment-là qu'il entre en extase et reçoit une vision. Une toile énorme, rempli de toutes sortes d'animaux, de reptiles et d'oiseaux, descend du ciel et se pose par terre. Une voix s'adresse à lui. « Allez, Pierre, tue et mange. » Pierre répond, « Pas question, je suis juif. Nous, on ne mange que du cachère. On ne touche pas aux choses impures. » Et Dieu répond, « D'après toi, qui a créé ces choses que tu traites d'impures ?» Ou alors que Pierre se demande ce que peut bien signifier cette vision, l'Esprit Saint lui dit de descendre pour voir qui vient de frapper à la porte d'entrée. Ce sont les envoyés d'un certain centurion romain, du nom de Corneille. Non seulement un païen, non seulement un incirconcis, un non-juif, mais il est officier dans l'armée d'occupation romaine qui opprime le peuple de Dieu. L'Esprit dit à Pierre d'accompagner ces hommes pour aller à Césarée, chez cet homme Corneille. Or, si j'avais été à la place de Pierre, en route pour Césarée, j'aurais été en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis ici en train de porter Dieu, d'apporter Dieu à mon ennemi? Mais quand Pierre arrive, il découvre que Corneille est un homme pieux, qui craint Dieu avec toute sa famille, qui comble de largesse les Juifs, et qui invoque Dieu en tout temps. En fait, Pierre n'apporte pas Dieu à Corneille. Dieu avait déjà trouvé Corneille tout seul. En fait, la question n'est pas de savoir si Corneille peut trouver Dieu. La question est de savoir si nous, qui fréquentons l'Église, nous pouvons trouver Dieu, alors qu'il continue à œuvrer en dehors de nos petites boîtes religieuses. En fait, cette histoire, ce n'est pas simplement l'histoire de la conversion de Corneille. C'est aussi l'histoire de la conversion de Pierre et de l'Église, qui ont besoin de revenir à l'amour que Dieu a pour le monde. Ce que nous croyons être les bonnes réponses à un tas de questions qui nous divisent entre nous, qui nous séparent d'autres croyants. Ce n'est pas finalement ce qui compte le plus. L'Église doit toujours prendre garde de ne pas supposer que Dieu peut être enfermé à l'intérieur de la justesse de nos prises de position. Est-ce que Corneille avait raison de participer à l'oppression du peuple de Dieu? Certainement pas, hein, d'après les bons juifs tels que Pierre. Et pourtant, cela n'a pas empêché Dieu d'aimer Corneille et de lui envoyer l'apôtre. L'idée même d'entrer dans la maison de ce païen incirconcis était aussi révoltante pour Pierre que l'idée de manger ces animaux impurs. Et Pierre avait travaillé si dur toute sa vie. Il avait travaillé pour être séparé, pour ne pas se contaminer. Et voici que Dieu lui dit maintenant de se souiller en entrant en communion de table avec Corneille. Que faisait donc Dieu avec ce païen? La question mérite d'être posée. Que fait Dieu avec ces gens qui se trompent sur des questions doctrinales qui divisent l'Église? Que fait-il? Bon, une chose est certaine, Dieu n'est pas là pour être solidaire avec leurs erreurs. Non, Dieu est là pour la même raison qu'il est avec nous. Il veut nous offrir à nos âmes desséchées cette eau vivante dont nous avons si désespérément besoin. Est-ce que cela veut dire que leurs prises de position ne sont pas erronées? Pas du tout. Mais cela veut dire qu'il ne suffit jamais, de simplement avoir raison. Si nous voulons connaître le Dieu qui a une passion pour chercher et trouver toutes ces créatures égarées. Écoutez, avant de voir Dieu de leur point de vue, nous n'aurons jamais de lui une vision assez complète. Cette nouvelle vision de Dieu nous changera complètement. Nous ne pouvons pas voir Dieu différemment sans être transformés par l'expérience. L'apôtre Pierre n'aurait jamais pu rester le même après cette histoire avec Corneille. En fait, plus tard dans le livre des Actes, quand certains frères de Jérusalem critiquent Paul vraiment sévèrement et s'opposent à son ministère parmi les non-juifs, devinez quoi? C'est Pierre qui prend sa défense. Pourquoi? Parce que sa vision de l'Église et même la taille de son propre cœur ont dû grandir une fois qu'il avait plus vu de Dieu. Pierre en est venu à se rendre compte qu'il ne pouvait pas simplement supposer que sa façon de penser représentait d'une manière exacte ou même adéquate la pensée de Dieu. Quelqu'un a dit une fois à Abraham Lincoln, hein, c'était le président des États-Unis pendant la guerre de sécession, le plus grand homme d'État hein, pour les Américains, quelqu'un lui a dit pendant la guerre que Dieu était certainement du côté des nordistes. Il a répondu ceci: prions seulement pour que nous soyons du côté de Dieu. Lincoln avait une vision de Dieu qui dépassait la justesse de sa position sur la guerre. Et cette vision, il l'avait découverte en comprenant que les églises du Nord et les églises du Sud, hein, je cite, lisent la même Bible, prient le même Dieu et invoquent chacune son aide contre l'autre. Les prières des deux ne peuvent pas être exaucées. Et ni l'une ni l'autre n'ont été exaucées pleinement. Le Tout-Puissant a ses propres desseins. Ces mots pourraient convenir aussi aux couples dont le mariage est au bord de l'échec. Ils passent trop de temps à discuter pour savoir qui a raison et qui a tort. Et cela ne les mène nulle part. Bon, entre nous, hein. D'habitude, c'est un des conjoints qui a plus raison que l'autre, c'est vrai.
Mais même quand ils admettent cela, cela ne les avance pas beaucoup. Ils ne sortent de l'impasse que quand ils reconnaissent tous deux qu'il y a un mystère sacré à l'œuvre dans la vie de chacun. Quand ils font cette découverte, ils auront soif de découvrir encore plus de ce Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront retomber amoureux. Essentiellement, c'est la même leçon que ma mère essayait de m'enseigner il y a si longtemps. Quand vous traversez une crise, que ce soit théologique, politique ou même conjugale, ce n'est pas ce que vous savez qui vous sauvera. C'est qui vous connaissez. Le Tout-Puissant a bien son propre dessein. Assouvir notre âme desséchée. Et il lui arrive souvent de réaliser ce dessein en nous montrant à quel point il est peu satisfaisant d'avoir les bonnes réponses. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette eau vivifiante qui est ton Fils et qui nous a été déversée en abondance. Seigneur, nous te demandons cette grâce de faire de nous des sources, de nous donner de cette eau pour qu'elle jaillisse en nous en vie éternelle. Et Seigneur, que ces eaux se répandent autour de nous, dans cette ville, dans ce pays, en abondance. Nous te le prions, au nom de Jésus. Amen.